Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette dernière de l'année 2017, du cycle des Jeudis du patrimoine. Eh bien, nous avions envie de terminer cette année en consacrant la thématique des Jeudis du patrimoine à Gassicourt, qui est vraiment entre le centre-ville et le Val-Fouré, un territoire qui a énormément évolué entre le village qu'il était et le quartier qu'il est devenu, en passant par la commune qu'il a été. Je voulais juste vous dire que nous poursuivrons donc ce partenariat avec la région Île-de-France en la présence de Roselyne Bussière. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et à tout à l'heure.
Merci Abiba. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que j'ai rencontré évidemment beaucoup au cours du travail d'arpentage que je fais. Alors pour les personnes qui ne m'auraient pas encore entendu, mais je vois qu'il y a des fidèles et j'en suis très fière, je suis conservateur du patrimoine à la région Île-de-France au service patrimoine et inventaire et je fais en partenariat avec la ville et le CAUE des Yvelines, un inventaire du patrimoine de Mantes, la Jolie, donc ce qui m'a évidemment amené à étudier Gassicourt. Et étudier l'histoire de Gassicourt, c'est peut-être plus difficile que étudier l'histoire de la ville de Mantes, parce que la ville de Mantes est très documentée, c'est une ville médiévale qui a une histoire écrite, notamment parce qu'elle était commune depuis le XIIe siècle, donc il y a beaucoup d'archives en fait. L'histoire de Gassicourt se lit peut-être davantage à travers ses édifices, le parcellaire qu'elle a, donc c'est une histoire un peu plus discrète, on va dire. Mais néanmoins, par exemple, tout ce qu'on peut lire sur les différentes batailles médiévales qui ont touché Mantes-la-Jolie, évidemment que ça n'a pas pu se passer sans que le territoire de Gassicourt ne soit touché. Guillaume le Conquérant au début, et puis Charles le Mauvais, et puis les Anglais, forcément sont passés par Gassicourt pour arriver à Mantes. Mais cela ne se lit pas dans les archives, en fait, et ça n'a pas donné lieu non plus à des fortifications, à la Tour Saint-Martin, par exemple, qui sont vraiment des témoignages important de cette histoire. Donc c'est une histoire peut-être plus cachée, qui a été bien quand même débroussaillée, si je puis dire, par une exposition à laquelle je n'ai pas participé, mais qui a donné lieu à un catalogue d'exposition qui est dans la bibliographie et qui a vraiment beaucoup débroussaillé les choses. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui ont participé à cette exposition-là, mais elle a vraiment beaucoup décrypté. Alors, en guise d'introduction, j'ai mis cette statue que je trouve vraiment tout à fait intéressante, donc qui représente Mantes et Gassicourt. Donc, en fait, elle était placée juste devant l'hôtel de ville de la Reconstruction en 1948. Et il faut bien avoir en tête que lorsque Mantes et Gassicourt ont fusionné en 1930, la condition pour les habitants de Gassicourt, c'était que la ville porte le nom de Mantes-Gassicourt, ce qui a été le cas jusqu'en 1952-53. Et à ce moment-là, le maire de Mantes a demandé à ce que ça devienne Mantes-la-Jolie. Ça a donné lieu à quelques conflits, on va dire, mais finalement, il a eu gain de cause. Et donc, c'est important parce que Gassicourt a un peu été oublié dans l'histoire, et c'est cette histoire-là que je vais essayer de vous raconter. Alors, je vais faire une première partie très large, puisque je vais aller du Moyen-Âge à la Révolution, donc c'est vraiment un grand pas dans l'histoire. Et puis, je vais vous parler de manière plus approfondie du 19e siècle, où j'ai trouvé cette formule chez un érudit local, Paul Aubert, qui a écrit une monographie sur beaucoup de villes et de villages de Seine-et-Oise à l'époque. C'était dans les années 1920-1930. Ces monographies sont en ligne sur le site des archives départementales. Et quand il raconte l'histoire de Gassicourt, pour lui, le 19e siècle, il dit « fini l'heureux âge agricole ». Donc c'est le mythe aussi du village agricole qui s'est industrialisé, qui est devenu communiste, et enfin, avec les conflits qui ont eu lieu. Et puis je parlerai de la fusion avec Mantes et du fait que donc c'est évidemment la fusion avec Mantes qui a permis à la ville de Mantes de s'étendre considérablement, de développer du logement social, des équipements, Et puis on arrivera au Val-Fouré, mais qui n'est pas l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Donc l'histoire de Gassicourt commence avec la fondation d'un prix. Évidemment, cette histoire-là est méconnue, on va dire, mais on a quand même quelques chartes qui permettent de la documenter. Et on sait que vers 1074, le comte de Mantes donc, a fondé un prieuré, le prieuré Saint-Sulpice. Ce prieuré Saint-Sulpice, c'est actuellement l'église Sainte-Anne de Gassicourt, qui était un prieuré qui dépendait de Cluny, donc la grande abbaye bénédictine, et qui, comme vous pouvez le voir, se composait de bâtiments claustraux. En fait, c'était un monastère. Donc, vous voyez, il y avait un petit monastère, mais quand même un monastère, qui reprenait le plan bénédictin, c'est-à-dire donc l'église, et puis sur le flanc nord de l'église, le cloître. Alors, ce plan-là date de la fin du XVIIIe siècle. Il est aux Archives nationales. Il a été reproduit dans le catalogue de l'exposition dont je vous parlais, à une époque où le prieuré Saint-Sulpice n'était plus prieuré, mais avait été acquis, j'en parlerai tout à l'heure, et était devenu la propriété de François de Sénozan, seigneur de Rosny. Donc, à ce moment-là, ça n'était plus un prieuré. Et c'est la raison pour laquelle, vous le voyez, au milieu se trouve le cloître. Et le texte dit le ci-devant cloître. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça n'est plus un cloître. Ici, vous avez la sacristie. Et puis, à côté, ce qui est devenu un fournil. Donc, c'était vraiment devenu une exploitation agricole. Avec à la place de ce qui devait être le réfectoire des moines, comme c'est traditionnel, vous voyez, c'était une grange. Et au sud se trouvait la ferme de Gassicourt, donc, qui était une grande exploitation agricole. En fait, les moines de Gassicourt étaient seigneurs de Gassicourt, c'est-à-dire qu'ils avaient à la fois une exploitation en faire-valoir direct qui s'appelait la ferme de Gassicourt, et ils touchaient des revenus des paysans, donc qui payaient le champard, par exemple, c'est-à-dire un impôt en nature, le cens, un impôt en espèces, et toutes sortes de revenus. Ce qui est important de dire, donc je vais vous, ces bâtiments-là sont détruits, donc on ne peut plus trop les décrire. On sait néanmoins que par des fouilles qui ont été faites aussi, on sait que le cloître, évidemment, a été bordé par une galerie ouverte qui reposait sur des piliers de pierre qui ont été en partie retrouvés. Donc, c'était un cloître avec un toit de tuiles à une seule pente tout à fait traditionnelle. Et puis, ce que vous apercevez en rouge ici, c'est intéressant. Lorsque le prieuré a été dissous, je vais vous en parler tout à l'heure, le doyen du prieuré donc a conservé un logement, un logis, donc qui était la partie rose que vous voyez, c'est-à-dire la partie en bas, qui comporte juste une entrée, une cuisine et une salle à l'étage. C'était vraiment quelque chose de petit. Alors ce prieuré, donc Saint-Sulpice, dépendant de l'ordre de Cluny, a été mis en commande. On n'a pas exactement la date précise. Qu'est-ce que c'est que la mise en commande? C'est quelque chose qui se pratique à partir du milieu du XVe siècle et surtout à partir du XVIe siècle avec François Ier et le Concordat de Bologne, qui autorise donc le roi de France et les grands seigneurs à devenir abbé d'un monastère sans être astreint à résidence, comme on pourrait dire aujourd'hui. C'est-à-dire, en gros, ils en touchaient les revenus sans être obligés d'y habiter et de partager la vie monastique. Et le résultat, donc, c'est que il y a un abbé commendataire, comme on dit, qui ne vit plus comme les moines avec réfectoire, dortoir commun, mais à son habitation particulière. Ici, assez modeste, donc c'est cette partie en rose que vous voyez là. Ailleurs, vous avez déjà vu des palais abbatiaux hein, dans des abbayes plus importantes. Je pense à l'abbaye de Royaumont, par exemple, où il y avait un palais abbatial tout à fait extraordinaire. Bon, là, donc, c'est plus modeste, mais néanmoins, donc, les prieurs, oui, du prieuré Saint-Sulpice étaient, à partir du XVIe siècle, on ne sait pas très bien, abbés commendataires. Et Bossuet, par exemple, a fait partie de ces abbés commendataires. Alors, ils venaient de temps en temps pour toucher leurs revenus, bien sûr, pour régler les problèmes qu'il pouvait y avoir. Et il y avait vraiment une scission, on va dire, entre les moines qui partageaient la vie collective et puis ces abbés qui, parfois, ça donne lieu à des conflits concernant l'entretien, par exemple, des bâtiments. Là, on n'en a pas de traces. Ce monastère a souffert probablement pendant la guerre de Cent Ans, mais on n'en a pas la trace précise. Néanmoins, autour de 1500, on sait que des stalles ont été installées, donc 32 stalles, qui signifie qu'il y avait probablement 32 religieuses, ce qui était quand même relativement considérable. Mais par la suite, donc, comme tous les monastères de France, l'ordre a connu un déclin. Alors, il a essayé de réagir, par exemple, en créant l'ordre des Mauristes, qui ont vraiment voulu réformer les ordres bénédictins, mais ça n'a pas touché Gassicourt. Et donc, à tel point que l'abbaye de Cluny a décidé, au début du XVIIIe siècle, de fermer et de vendre tous les monastères qui avaient moins de 10 moines. Et donc, le prieuré de Gassicourt a été vendu à François de Sénozan, donc, qui était le seigneur de Rosny, c'est-à-dire qui était juste à côté. Et lui, l'intérêt qu'il avait de l'acquérir, c'était bien sûr d'avoir la ferme, d'avoir les terres qui étaient alentour, et il l'a transformé en grand domaine agricole. Et on a même un texte qui montre qu'il était très soucieux de le moderniser, le domaine. Donc, peut-être on peut voir là l'influence des physiocrates, qui sont des grands seigneurs, très souvent, qui ont voulu démontrer que l'agriculture était une richesse importante et qu'il fallait développer cette activité, peut-être en réaction par rapport à Colbert, par exemple, pour qui c'était vraiment le commerce qui enrichissait un territoire. Et donc, je pense que si je vous dis qu'un des grands physiocrates, c'est Quesnay, qui a habité Mantes, donc on peut, j'en ai pas la trace, mais on peut peut-être comprendre qu'il y a eu qu'il y a une corrélation entre les deux. En tout cas, donc, il a écrit un texte qui est publié dans le catalogue de l'exposition dont je vous parlais tout à l'heure, qui montre qu'il veut améliorer le rendement de ce prieuré. Alors, ce prieuré, il a ensuite, donc, à la Révolution, enfin, au moment, pardon, où il a été vendu à François de Sénozan, il est devenu automatiquement église paroissiale. L'image que je vous ai montrée ici, donc tout ce qui est en noir, la légende dit que c'est devenu l'église paroissiale et du coup l'église paroissiale Sainte-Anne. Auparavant, le prieuré donc était dédié à Saint-Sulpice et les paroissiens avaient un autel ici dédié à Sainte-Anne. Donc quand ils venaient à l'office le dimanche, à la messe le dimanche, c'était cette partie-là qui leur était dévolue. En fait, le reste de l'édifice était pour les moines. Donc quand François de Sénozan le rachète, eh bien, toute l'église devient l'église paroissiale Sainte-Anne. Et elle a souffert à la Révolution, peut-être moins que la collégiale, enfin pas pour les mêmes raisons, disons, il n'y avait pas de statues en façade qui ont pu être décapitées, mais quand même, il a été un peu laissé à l'abandon. Et toutes les archives du XIXe siècle, notamment les archives qu'on trouve ici, les archives municipales, montrent que vraiment pour le village de Gassicourt, qui a été peuplé d'environ 300 habitants au début du XIXe siècle, c'était une lourde charge que d'entretenir et de réparer cette ancienne abbaye, cette église. Et c'est là qu'intervient à nouveau Alphonse Durand, un architecte dont je ne sais plus si on en a déjà parlé ou pas, en tout cas un architecte de Mantes qui a restauré la collégiale et qui était architecte du gouvernement donc et qui a aussi restauré l'église paroissiale. Et il a dessiné, donc il a reconstitué à quoi elle pouvait ressembler. Et notamment, vous voyez, il a mis les stalles, il les a mises en place ici. On les voit, donc aujourd'hui elles sont dans le cœur ici, dans le chevet, mais à cette époque-là elles étaient ici, donc c'était le cœur des moines en fait, comme c'est traditionnel, et la chapelle Sainte-Anne donc se trouvait dans le bras sud du transept. Vous noterez aussi que à ce moment-là, donc là on est au milieu le dessin date du milieu du 19e siècle, l'église était encore enserrée dans ses bâtiments conventuels, en tout cas il en restait une partie au nord et au sud ici, au nord et à l'ouest ici. Et c'est important pour la suite parce que lorsqu'on va dégager cette partie-là, évidemment, ça va affaiblir le mur occidental et on va devoir le conforter et installer des contreforts. Voici telle qu'elle était à la fin du 19e siècle. Donc aujourd'hui, elle est vraiment au milieu d'un vaste espace libre. À cette époque-là, elle était encore enserrée dans des bâtiments. Je vais vous montrer un plan tout à l'heure qui vous dira de quel bâtiment il s'agissait, mais elle n'avait déjà plus de bâtiment qui lui était vraiment accolé. Là, Alphonse Durand, donc, qui a restauré ce contrefort qu'on voit ici, à égalité avec le contrefort qui se trouvait de l'autre côté. Donc la voici telle qu'elle est aujourd'hui. C'est une église qui a été construite au début du XIIe siècle, une église de style roman, on va dire. Mais le chœur ensuite a été reconstruit à l'époque gothique, et la croisée du transept aussi. Et c'est vraiment une église à l'image des petites églises rurales d'Île-de-France, c'est-à-dire avec une nef charpentée et un chœur voûté. C'est vraiment la caractéristique des églises romanes d'Île-de-France, des églises rurales romanes d'Île-de-France. Mais au XVIe siècle, une nef couverte de charpente, ça n'était pas chic, on va dire, enfin, ça ne plaisait pas trop, et donc elle avait été couverte de fausses voûtes en plâtre. Et c'est ces fausses voûtes en plâtre qui, à la suite de fuites d'eau, commençaient à s'effondrer au début du XIXe siècle. C'est pour ça que l'église avait besoin d'une restauration importante. Donc voici l'intérieur de cette église. Vous voyez une église toute simple. Donc la charpente ici a été refaite après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 60, de même que les charpentes des deux bas-côtés. Donc elles avaient été déjà refaites une première fois, mais elles ont été reprises depuis. Et vous voyez, c'est une église quand même sur un plan traditionnel, avec nef, bas-côté, en croix latine avec un transept, et puis un chœur et un chevet plat. Ça aussi, c'est une chose intéressante à remarquer, qui montre bien qu'on est plus tard. Autant la nef, elle est tout à fait romane, avec ses chapiteaux très... ces piles très lourdes, ces chapiteaux très, très écrasés, on va dire, qui reprennent le motif du chapiteau corinthien, mais en l'interprétant. Autant le chœur, lui, il est plus gothique, et notamment c'est la baie d'Axe, donc entièrement très éclairée, c'est vraiment ça, l'architecture gothique du XIIIe siècle. Donc en fait, c'est l'histoire de toute l'architecture du Moyen-Âge qu'on a ici, c'est vraiment très important. Alors bien sûr, dans cette église, il y a des stalles, donc 32 stalles, dont voici le schéma. C'est vraiment fascinant, elles sont protégées au titre des monuments historiques. C'est vraiment tout le Moyen-Âge et le début de la Renaissance qui sont représentés. Stalles, donc c'est un siège pour assister à l'office, et comme très souvent l'office se faisait au milieu de la nuit, par exemple, et on était debout une partie. Donc, pour pouvoir être debout sans être debout, il y avait des miséricordes, c'est-à-dire des sièges donc qui permettaient de se reposer. Ces miséricordes, c'est vraiment un joyau de l'art du Moyen-Âge. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les accotoires, donc c'est-à-dire c'est sur les côtés. Et puis les parcloses, donc, qui sont des parties sculptées. Alors, vous voyez, c'est très truculent, en fait. C'est vraiment l'art médiéval. Vous voyez, là, vous avez un moine en train de lire, donc, et de l'autre côté, probablement aussi. Ils sont vraiment dans leur costume de moine, avec la bure, voilà. Et puis, c'est pas la cagoule, mais la coule, je crois. Donc, vraiment, ils sont tout à fait représentatifs. Et puis, ces miséricordes, elles sont à la fois la représentation de... la vie quotidienne, donc à la fin du Moyen-Âge. Je vous montrerai tout à l'heure, on n'a pas de texte malheureusement qui dise en telle année on a installé des stalles dans l'église de Gassicourt. Néanmoins, il y a des petits éléments qui me font penser, moi, qu'elles sont plutôt du début du XVIe siècle. Je vais vous montrer des détails tout à l'heure, des comparaisons aussi qui permettent de le faire. Et donc, on y trouve à la fois des scènes de la vie quotidienne, peut-être un calendrier des mois, parce que donc on peut trouver par exemple Fauchelet-Prés au mois de juin. Peut-être là on est en train de battre les blés, donc à l'automne, ou peut-être aussi c'est un autre épisode de du calendrier agricole qui est ce qu'on appelle la glandée, mais j'en suis pas très sûre. La glandée, c'est le fait qu'à l'automne, donc on va frapper les chênes pour récolter les glands pour nourrir les porcs. Je n'en suis pas sûre. Là, c'est sans doute les vendanges. C'est quand même assez fruste comme manière de faire. Vous voyez notamment les pieds carrés, mais quand même, c'est vraiment intéressant. Donc le vendangeur. Peut-être ici, alors c'est une scène qui représente, je pense, une femme et un homme, peut-être au coin du feu en train de festoyer. Ça pourrait très bien être le mois de décembre. Le mois de décembre est souvent représenté comme, enfin, le paysan peut se reposer, il se met au chaud au coin du feu et il n'a plus rien à faire. Mais c'est une interprétation personnelle. Et puis alors, il y a cette activité-là. Je ne sais pas très bien ce qu'il est en train de faire. En tout cas, ça a un rapport avec le vin, ça c'est clair. Il est en train peut-être de filtrer. Je ne sais pas à quelle période de l'année ça pourrait se situer. Mais on a aussi des jeux d'enfants, des enfants nus en train de jouer. J'insiste bien sur le fait qu'ils sont nus, donc ce qui est tout à fait... au Moyen-Âge, on ne représentait pas les enfants nus. Par contre, à la Renaissance, si. Donc c'est un élément de datation peut-être. Et en voici la preuve. Donc c'est un manuscrit qui date de 1500 que j'ai trouvé sur le site de Gallica. Et vous voyez donc 1500. Donc on est vraiment au tout des fin Moyen-Âge, début Renaissance. Vous voyez ces enfants nus en train de jouer. Et à quoi jouent-ils? À Colin Maillard, exactement comme eux ici. Donc vraiment il y a des jeux d'enfants. Il y a une autre scène où on voit des enfants en train de chevaucher, jouer avec des sortes de faux chevaux, on va dire des chevaux en bois. Et puis, on y trouve aussi d'autres scènes qui sont symboliques, on va dire. Par exemple, cette scène-là s'appelle la boule aux rats. Et donc, que voyons-nous? Eh bien, les rats en train de ronger le monde. Donc, c'est peut-être une allusion au mal qui ronge le monde. C'est peut-être une allusion à la religion prétendue réformée qui ronge le monde. Ça n'est pas très explicite. Néanmoins, à Champeau, donc en Seine-et-Marne, vous voyez, on retrouve exactement le même thème. Donc, les rats ne sont pas représentés de la même façon, mais on a le globe, les trous pratiqués par les rats et les rats en train de ronger le globe. Donc, les stalles de Champeau sont datées de la fin du XVe siècle, début XVIe siècle. Donc, on est vraiment dans cette mouvance-là. On peut arriver comme ça à cette datation. Donc, ce prieuré, cette église de Gassicourt se trouvait au cœur d'un village, un petit village. Donc, au XVIIe siècle, exactement en 1700, on sait qu'il y avait 66 feux. Évidemment, il n'y avait pas de recensement tous les 10 ans comme on l'a depuis la Révolution, enfin depuis les années 1820. On comptait en feux à cette époque-là, c'est-à-dire en foyer, en fait. Et donc, bon, 66 feux, ça nous donne quand même une idée d'un petit village qui, au début du XIXe siècle, avait 300 habitants environ. Ce plan-là, c'est le plan d'intendance, donc qui date de 1785. Je pense que vous voyez, il est important parce qu'il nous montre l'immense territoire de Gassicourt, en fait. Et c'est pas un hasard si sa voisine Mantes a lorgné sur ce territoire, parce qu'il est vraiment très important. J'ai pas la mémoire des chiffres, mais j'ai mis dans le texte. Je crois combien de fois il était plus grand que Mantes. Je crois que voilà, Mantes s'étendait sur 141 hectares avant de s'étendre sur Mantes, la ville. Je vous en parlerai tout à l'heure. Gassicourt, 869 hectares. Donc on voit bien l'importance de ce territoire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un village très concentré, comme vous pouvez le voir. Donc en 1785, il n'y a pas d'éclat du village, donc il est très concentré autour de son prieuré. Vous reconnaissez bien sûr la route royale, donc devenue route nationale, qui a été aménagée au milieu du XVIIIe siècle et qui a donné lieu à la construction du nouveau pont de Mantes, du pont Péronnet. Et donc c'est un village qui est à l'écart en fait. Il n'a pas été attiré par cette route royale. Il est à l'écart de la Seine aussi pour cause d'inondation évidemment. Donc il est très regroupé ici. Et l'intérêt du plan d'intendance, c'est qu'il donne aussi la répartition des terres. Alors oui, ça peut vous perturber. Enfin, il est à l'envers. À cette époque, la Seine est en bas et il devrait être. Le nord se trouve en bas. En fait, ce qui est même encore le cadastre napoléonien, c'est dans tous les sens. Hein. Je ne sais pas précisément quand on s'est mis à mettre le nord en haut. Donc, c'est un territoire dont voici la répartition des terres. J'espère que je ne me suis pas trompée. J'ai fait des petits pourcentages, mais avec Excel, normalement, on ne se trompe pas. Donc, vous voyez, les terres labourables, c'est 34% de la superficie. C'est la grosse partie rouge. Les vignes, c'est 15%. Les prés, 5%. Les bois taillis, 25%. Les friches, 8%, chemin rivière, 2% et 1% le bâti. Donc, c'est un village, bien sûr, agricole. Je m'attendais vraiment à trouver que la vigne était beaucoup plus répandue. En fait, si Monsieur Lachiver a fait un livre tout à fait remarquable, d'une part sur l'histoire de Mantes, mais aussi sur l'histoire de la vigne en Île-de-France, donc on peut faire des comparaisons vraiment importantes. Par exemple, à Triel, donc vous voyez où est Triel qui est plus à l'ouest, les trois quarts du territoire étaient à la même époque dévolus à la vigne. Donc Gassicourt n'est pas un territoire où la vigne occupe une place importante. Alors c'est aussi une question d'orientation. Bien sûr, Triel, c'est sur la rive droite et c'est un coteau bien ensoleillé. Gassicourt, c'est plus plat, on va dire, et tourné vers le nord. Donc effectivement, ça s'explique, mais dès le XVIIIe siècle. Et j'embraye tout de suite sur la vigne à Gassicourt. Parfois, on lit dans les ouvrages que la vigne a perduré, ce qui est vrai, tout au long du XIXe siècle en Île-de-France, et que c'est le phylloxéra qui l'a fait disparaître à la fin du XIXe siècle. les chiffres que donne M. Lachiver sur la vigne à Gassicourt l'attestent bien. C'est la révolution, en fait, qui a tué la vigne, puisque, enfin, en tout cas, qui l'a fait fortement décliner. Puisque vous voyez la différence entre 1785 et 1807, on passe d'environ 130 hectares à un peu plus de 40 hectares. 3 fois 4, 12. On a été divisé quand même par 4 de manière importante. Alors, ça peut s'expliquer pour différentes raisons, mais la principale, à mon avis, c'est le problème d'alimentation. En fait, c'est pas de vin dont on avait besoin, mais c'est de blé, de pain. Donc, les terres ont dû, à ce moment-là, être reconverties. Rappelez-vous, les accapareurs, enfin, toute cette crise du blé qui faisait que ça devait être beaucoup plus rentable de cultiver du blé que de cultiver la vigne. Et puis, vous voyez, donc, au milieu du 19e siècle, la vigne n'est vraiment plus qu'un souvenir. Et en 1892, elle est proche de zéro. Ça, je dois dire que c'était une surprise pour moi. Je pensais que la vigne, justement, peut-être j'étais influencée par les stalles qui montraient quand même une activité. Alors, c'est vrai que les stalles datent du Moyen-Âge et là, on est au 19e siècle. Néanmoins, c'est pas parce qu'elle était pas aussi développée qu'on pourrait le croire qu'elle n'était pas importante pour les revenus des paysans. C'était en fait le vin. C'était un moyen d'avoir de l'argent liquide, on va dire, et oui, si on peut dire, l'argent comptant. Et donc, les paysans avaient soigné vraiment leurs vignes, leur accordaient beaucoup d'importance, mettaient de préférence le fumier dans la vigne. Enfin, c'était vraiment une source de revenus qui permettait justement à la petite paysannerie d'avoir un peu d'aisance, on va dire, et de ne pas être complètement en subsistance. Donc voilà le Gassicourt du cadastre napoléonien. Donc là, on est revenu, le nord est bien en haut, mais ça vous montre, donc on était en 1785, là on est en 1810, et vous voyez, il n'y a pas eu énormément de changements. Le cadastre napoléonien, j'ai déjà parlé, il a été fondé par Napoléon, comme son nom l'indique. C'est en 1807 qu'il a décidé de créer le cadastre napoléonien, et la ville de Mantes et la ville de Gassicourt ont été très tôt doté d'un cadastre. Dans d'autres pays plus méridionaux et en Corse aussi, il a fallu plus de temps pour que ce cadastre se mette en place. Qu'est-ce que c'est que le cadastre napoléonien? C'est pour ça que c'est une source vraiment très fiable. C'est un document fiscal, en fait. C'est pour percevoir la taxe foncière qui fait partie des quatre impôts directs qui ont été mis en place à la Révolution. Donc, c'est vraiment un document fiable qui représente les parcelles non construites et parcelles construites. Et à ce document-là sont attachés des états de section et des matrices cadastrales qui permettent de reconstituer à la fois les propriétaires, la nature des propriétés. Enfin, c'est vraiment une source très importante, très intéressante, qui est en ligne sur le site des archives départementales des Yvelines. Donc, si vous voulez vous y reporter, c'est vraiment important. Donc, vous voyez, le voilà, ce village de Gassicourt. Les feuilles construites ne sont qu'au nombre de deux. Il y a le village à proprement parler. Et puis, donc, ici se trouve le prieuré, donc, que vous voyez, qui s'appelle à ce moment-là Ferme de Gassicourt. Donc voilà, c'est tout ce qui est bâti au début du 19e siècle. Et je ne sais pas si le plan, oui, si quand même vous pouvez le voir, c'est un parcellaire extrêmement laniéré, en fait, très étroit. Et je le signale parce que ça va avoir une importance considérable sur le bâti du 19e siècle. C'est un parcellaire étroit, laniéré, des parcelles donc qui étaient au départ de la vigne et puis après peut-être sans doute des cultures maraîchères, en tout cas tout au long du 19e siècle. Donc des parcelles longues et étroites, et du coup, bien sûr, l'habitat va devoir se couler dans ces parcelles longues et étroites, et ça va donner une nature d'habitat particulière. Alors, cet habitat du centre-bourg. Commençons par celui-ci. Donc, on est juste à côté de l'église de Gassicourt. C'est une maison rurale. Hein. C'est un habitat vraiment de cultivateurs. Les recensements qu'on a conservés à partir de 1826 et l'état de section des propriétés montrent que les habitants de Gassicourt sont avant tout des cultivateurs. C'est le terme qui est utilisé. Ils font de la polyculture, ils font un petit peu d'élevage. Et donc, leur habitat est le reflet de cette activité. Donc, ce sont des maisons que on appelle des blocataires, c'est-à-dire c'est un seul édifice perpendiculaire ou parallèle à la rue. Là, il est perpendiculaire à la rue, qui comprend d'un côté la partie habitée, qui est probablement au fond, et à l'avant, la partie agricole, donc avec écurie, étable et grenier à l'étage. C'est vraiment caractéristique, un pignon, donc, et des moellons, des moellons irréguliers qui étaient destinés à être enduits à la chaux, bien sûr. Au départ, il y avait une différence entre la partie habitée qui était entièrement enduite à la chaux et puis la partie agricole, paraître les pierres. C'était, comment dire, il faut bien se remettre l'esprit de cette époque-là où c'est un habitat spontané, on construit soi-même, on ne fait pas venir un architecte parisien ou d'ailleurs pour construire sa maison, on la construit soi-même et donc on fait tout à l'économie. C'est-à-dire on prend les moellons qui sont sur place, où on va les chercher pas très loin, et ce qui n'a pas besoin d'être enduit complètement, ben on l'enduit à pierre vue. Mais on l'enduit, néanmoins. Ça, c'est très important, puisque aujourd'hui, la mode est de d'écrouter les façades. En fait, quand il s'agit de moellons irréguliers comme ça, ça n'est pas d'origine. Donc voilà, ces maisons rurales. Vraiment, Gassicourt, le centre de Gassicourt, donne l'image de ce que c'était qu'un village du début du 19e siècle. Donc, aucun plan d'ensemble d'urbanisme, des rues avec des maisons qui sont tantôt perpendiculaires à la rue, tantôt, comme on l'a vu tout à l'heure, tantôt parallèles à la rue, comme on le voit ici. Des granges, vous voyez ici, on voit bien que c'est pas la partie habitée se trouve de l'autre côté. C'est vraiment des portes charretières, vous voyez, c'est vraiment des pignons, des murs goutreaux, enfin c'est vraiment l'image d'un village. Voici cette rue de Gassicourt qui donne bien le reflet de ce qu'elle était. Donc au 19e siècle, cet village de cultivateurs, donc environ 300 habitants, a connu une véritable révolution, qui est la révolution industrielle. Bon, il n'est pas le seul, hein, mais cette révolution, elle s'est faite quand même relativement doucement, en deux étapes, qui sont d'abord l'arrivée du chemin de fer, autour de 1850, et puis l'arrivée de l'usine Bronstein en 1891-92. C'est important, cette lenteur de la transformation fait que ça n'est pas spectaculaire dans l'habitat. Ça l'est dans, évidemment, le chemin de fer, alors c'est un bouleversement total, mais l'habitat, lui, reste quand même encore traditionnel. Alors voilà, la courbe de la population de Gassicourt, elle est vraiment impressionnante. Donc vous voyez, jusqu'en 1880, là, jusqu'à peu près 1891, l'arrivée de l'usine Bronstein, donc on tourne autour de 300-315 habitants. Et puis après, alors c'est exponentiel, donc entre 1891 et 1911, ici, on a doublé. Hein, on a doublé de population et après, c'est encore plus important, à la veille de la fusion avec Mantes, la population est de 3150 habitants, donc vraiment multiplié par 10. Alors ce chemin de fer qui arrive, il a été bien, là je ne fais que répéter ce qui a été publié par M. Colombier qui raconte l'histoire du chemin de fer mantais. C'est important de le dire, donc la première ligne de chemin de fer qui a été construite, donc c'est en 1843, la gare qui la desservait, c'était Mantes Station, comme on disait, qui était à ce moment-là sur Mantes-la-Ville. Mantes-la-Jolie, qui s'appelait à l'époque Mantes-sur-Seine et Gassicourt, n'avaient pas de gare. Donc là, on est en 1843. En 1852, et c'était la ligne Paris-Rouen, bien sûr. En 1852, on a créé un embranchement vers Caen, et donc la gare s'est développée, on va dire. Non seulement on a créé un embranchement, mais on a créé une gare de triage, et donc la gare s'est développée. Et c'est à ce moment-là, en 1855, qu'a été créée la gare qui s'appelait Mantes-Embranchement, mais qui était sur le territoire de Gassicourt. Là, vous avez la première gare Mantes-Station, 1843. Voici la deuxième gare, donc qui est toujours là. Gare de deuxième catégorie, donc avec, et c'est important de le signaler, avec un buffet, parce que ça va générer des emplois. Et donc cette gare-là, donc qui aujourd'hui est en retrait par rapport à la gare actuelle, je ne sais pas où elle sera par rapport à la future gare, on verra bien, que Mantes-Embranchement, ça veut dire des aiguillages, ça veut dire des cheminots qui vont devoir rester sur place. Donc c'est à ce moment-là que la population commence à augmenter. Et donc en 1892, la troisième étape, c'est l'apparition d'une nouvelle ligne par la rive droite, cette fois-ci, Argenteuil-Mantes, donc, qui donne lieu à cette gare-ci. Donc voilà, cette histoire-là, elle se fait en plusieurs étapes. Et au départ, Mantes-la-Jolie, Mantes-sur-Seine, donc Mantes-la-Jolie dont on parle aujourd'hui, n'étaient pas directement concernés par cette, je dis au départ. Hein. Et certains ont même dit que c'était Mantes-sur-Seine, donc qui ne voulait pas du chemin de fer, un peu la population bourgeoise, on va dire, qui avait repoussé la gare du côté de Mantes-la-Ville, population plus ouvrière. Bon, les textes ne parlent pas vraiment de ça. Moi, je pense que Mantes avait déjà en tête, en fait, de s'agrandir de ce côté-là. Et donc, voilà la carte d'état-major qui date du milieu du 19e siècle, donc qui vous montre, j'ai mis en jaune les limites actuelles de la ville de Mantes, donc vous voyez, mais le chemin de fer occupe tout ce territoire-là, alors c'est pas encore avec l'embranchement, justement, on est juste un petit peu avant, et donc, voilà Gassicourt, donc à quoi ressemblait Gassicourt au milieu du 19e siècle, vous voyez, il n'y a toujours pas d'habitat attiré par la route nationale, il reste encore très compact dans son territoire. Alors, l'histoire de Gassicourt se lit à travers les procès-verbaux des conseils municipaux et j'ai pas résisté au plaisir de vous mettre quelques petits détails parce que je trouve que c'est là que toute la vie de ce village surgit. Donc, on est, vous voyez, le chemin de fer est là, mais il n'a pas encore vraiment transformé les choses. Donc, en 1853, le conseil municipal, après avoir examiné la situation des logements de la commune, ne trouve aucune nécessité à l'établissement d'une commission sur l'assainissement des logements insalubres. Donc, en 1853, finalement, le village de Gassicourt n'a pas de logement insalubre. En 1893, si vous regardez tout en bas, un adjoint demande l'établissement d'un puits à la cité au lieu-dit Les Vaux-Notre-Dame, quartier populeux, entièrement privé d'eau, quartier de 150 personnes. Donc, il y a vraiment eu une transformation. Alors, faut pas se leurrer, néanmoins, on est dans un habitat rural. Qu'il n'y ait pas de logement insalubre, ça veut pas dire que c'était tout confort. Hein, si on regarde 1856, les puits communaux sont un danger car on doit les laisser ouverts jour et nuit pour l'usage des habitants. Donc ça veut bien dire qu'on allait puiser l'eau, chercher l'eau au puits. Il faudrait remplacer les corps des poulies par des pompes. Aucune fontaine ni mare n'appartient à la commune. Donc on voit quand même qu'on est dans un habitat simple, un habitat rural. En 1857, alors ça aussi c'est intéressant, c'est le conseil municipal, donc chaque année, mais j'ai pris l'année 1857, qui fixe le banc des vendanges, c'est-à-dire qui dit à partir de quand on va pouvoir faire les vendanges, encore au 19e siècle. Et là, il est fixé au 7 courant. Il s'agit du 7 septembre. Les vendangeurs peuvent travailler du lever au coucher du soleil, mais ni avant ni après. Et on ne peut pas commencer les vendanges le 6. Si le conseil municipal a décidé que c'était le 7, c'est un héritage de médiéval, en fait, où le banc des vendanges était donné par le seigneur. Moi, je trouve ça, c'est extraordinaire. On est en 1857, la révolution est passée par là, mais le banc des vendanges est toujours donné. Et puis, une chose très intéressante aussi, les grappilleurs. Qu'est-ce que c'est que les grappilleurs? Ben c'est ceux qui vont récupérer les grains qui n'ont pas été vendangés. Et les grappilleurs ne pourront pas se présenter dans les vignes avant le 5 octobre. Donc on laisse bien le temps aux gens, aux vendangeurs de faire leur travail. Mais ça donne quand même une idée sur le niveau de vie, en fait. Hein. Pas d'eau courante, donc l'importance du grappillage. Peut-être qu'on pourrait trouver aussi d'autres choses sur le fait, comment ça s'appelle déjà, le fait d'aller ramasser dans les champs. Les glaneurs, on trouverait la même chose aussi. Et puis alors, le budget va faire rêver sans doute des gens ici, s'ils ont été conseillers municipaux. Une fois, le conseil municipal s'est réuni, et puis il n'avait aucun élément à l'ordre du jour, et donc il s'est dissous. Sans avoir eu quoi que ce soit à examiner. Je pense que là aussi, on est au milieu du 19e siècle, c'est extraordinaire. Et en 1859, donc, de quoi se compose le budget de ce village? Alors, il y a des dépenses incontournables, le salaire du secrétaire de mairie, de l'instituteur. Il y a un seul instituteur qui a une seule classe mixte, garçon-fille. Le garde champêtre, bien sûr, qui est fondamental pour annoncer justement le banc des vendanges. S'ils l'ont fixé le 7 courant, eh bien le garde champêtre va aller annoncer dans tout le village que le banc des vendanges est ce jour-là. Et puis les dépenses courantes, donc c'est l'entretien des lavoirs, fontaines et pompes, la visite des fours et cheminées. Visiblement, une obligation a été donnée à la commune de vérifier que les fours et les cheminées étaient bien entretenus. L'entretien de la maison d'école, l'indemnité de logement du prêtre qui n'a plus de presbytère et les frais de mise en place de la taxe sur les chiens. Je n'ai pas supprimé quoi que ce soit. C'est vraiment le budget de la commune. Donc, ça vous donne vraiment l'image de ce que c'est que ce village agricole. Alors, le chemin de fer, donc, en lisant le livre de Monsieur Colombier, j'ai vu apparaître le nom de la cité Budicombe, donc qui m'a beaucoup étonnée, parce que je ne l'avais lu nulle part. Dans les cartes, par exemple, elle n'était pas citée. Donc, je suis partie à la recherche de cette cité Budicombe, et donc, je l'ai trouvée dans les matrices cadastrales. Je vous ai mis un extrait des matrices cadastrales. Donc, William Budicombe, c'est un ingénieur donc, qui a acheté des terres agricoles en 1859 et qui y a construit 13 maisons. Elles ont été rachetées par la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest en 1865. Et vous voyez, donc ce qui m'a permis de les situer vraiment, j'espère que je ne me suis pas trompée, mais je suis à peu près sûre de moi, c'est qu'il y a le nom de la feuille de cadastre. Donc, par exemple, la maison numéro 1, vous voyez, elle est en E604 ici. Donc, E, c'est la parcelle cadastrale. 604, c'est le numéro de la parcelle. Et c'est bien écrit, cité Budicombe, numéro 1. Puis après, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Alors, où se trouvaient-elles ces parcelles? J'ai cherché dans le cadastre napoléonien. C'est les Vaux Notre-Dame, donc. Et alors ça, c'est un plan, une photographie aérienne qui date de 1950 et qui vous les montre ici pour vous situer. La gare est en bas de cette route-là, ici. Et donc, la cité Budicombe, elle était là en 1950. Et la voici, en fait. Donc, enfin, j'espère que je ne me suis pas trompée, mais je suis à peu près sûre de moi. C'est des maisons mitoyennes, en fait, des maisons en rang, comme on disait, comme l'habitat ouvrier. Évidemment, elles étaient destinées à loger des cheminots, des petites maisons dont on parlera tout à l'heure. Voici à quoi elles ressemblent. Autre révolution, donc, si on peut dire, c'est l'arrivée de l'usine Braunstein en 1891. Ma connaissance est encore très théorique de cette usine. Je n'ai pas encore eu le temps de la visiter. J'espère, grâce à Habiba, que je vais pouvoir la voir bientôt et pouvoir voir ce qu'il en reste. Néanmoins, quand même, ça, c'est une photographie d'aujourd'hui. Donc, on voit bien qu'il y a une belle cheminée. Alors, qu'est-ce que c'est que l'usine Braunstein? Donc, c'est une usine, c'est une papeterie, en fait, d'origine parisienne, qui s'est installée et qui date depuis la fin du 19e siècle, exactement 1880, et qui s'est installée à Gassicourt parce qu'il y avait à la fois des terrains importants et de l'eau de la Seine, parce que pour la papeterie, l'eau, c'est extrêmement important. Et c'était pas n'importe quelle papeterie, c'était une papeterie qui fabriquait du papier à cigarette, en fait. Et les frères Braunstein ont inventé le papier zigzag, c'est-à-dire le papier qui était plié, ils l'ont inventé en 1892, donc pile au moment où ils se sont installés. Donc le papier, vous voyez, qui est plié des deux côtés, ce qui fait qu'on tire une feuille assez facilement. Je crois que ça existe toujours d'ailleurs. Et donc, vous voyez cette belle image que j'ai trouvée sur Internet qui vous dit donc manufacture ici Paris et puis là, usine modèle à Gassicourt. Donc c'est vraiment important cette arrivée de l'usine Braunstein parce que donc les Braunstein ont à la fois voulu installer une grande usine, donc ils se sont vraiment étalés près de la Seine, donc où arrivait la matière première, qui était des chiffons neufs. Hein, c'est papier à cigarette, on le fait pas avec des vieux chiffons qui ont servi, mais on utilise des chiffons de chanvre neufs. Et donc, ils se sont installés dans ce territoire-là. Ils ont creusé des puits artésiens et ils avaient de l'eau en abondance, tellement en abondance d'ailleurs qu'ils fournissaient le village de Gassicourt en eau. Puis après, ils ont installé une centrale électrique et donc ils fournissaient aussi gratuitement le village de Gassicourt et notamment les écoles. On a des textes qui le montrent en électricité. Et puis donc, c'était des soucieux d'un logement ouvrier important, et donc ils ont créé la cité Braunstein. Donc voici un exemple. Alors c'est toujours la photo de 1950, donc qui vous montre l'importance de l'usine ici, et la cité Braunstein qui est toujours là. Aujourd'hui, elle est un petit peu transformée quand même. C'est ce qu'on appelle une cité-jardin aussi, c'est-à-dire avec des maisons disséminées dans les jardins. Il y avait vraiment une mise en scène de l'usine. On accédait par cette grande avenue ici plantée d'arbres qui permettait d'accéder à l'usine. Mais là, on est en 1955. 1950, pardon. Donc j'avais envie de savoir à quoi ressemblait la population à la fin du 19e siècle. Donc en 1896, il y a un recensement. Alors j'ai tout simplement compté. Je n'ai pas compté, j'ai compté les chefs de famille, hein. J'ai pas compté toute la famille qui allait avec. Mais vous voyez, en 1896, il y a 24 cultivateurs agriculteurs, selon les deux termes sont utilisés. Il y a 18 ouvriers agricoles, ouvriers de culture, porcher, c'est le terme qui est employé. 5 laitiers, ouvriers laitiers. Et puis 90 employés de chemin de fer. Et 78 ouvriers papetiers. Donc, on est en 1896. L'usine Bronstein est arrivée en 1891. Donc, c'est vraiment un démarrage très important. Et le chemin de fer, vous voyez, a pris beaucoup d'importance aussi. Alors, il y avait donc des ouvriers laitiers parce qu'il y avait la laiterie Magie à Gassicourt, donc qui a été installée en 1907. Il y en avait une. Magie, c'est une société d'origine suisse. À Freneuse, il y en a une laiterie Magie, justement. C'est une usine suisse, donc il faut bien se replacer dans le contexte historique. Le lait, évidemment, n'est pas au lait UHT ou enfin ce genre de choses. Le lait frais, c'est vraiment quelque chose de très important pour approvisionner Paris, notamment. Et le chemin de fer permet d'approvisionner Paris. Donc les laiteries sont proches, en fait, de Paris. Et cette laiterie qui n'existe plus, on la voit ici, donc c'est un plan de Mantes qui date de la reconstruction, donc 1945. Aujourd'hui, elle a disparu derrière les abattoirs. Ce village qui se développe petit à petit et qui se peuple, donc évidemment, la préoccupation majeure, c'est l'éducation. C'est la mairie, avoir une mairie et une école. Donc la première école qui a été installée à Gassicourt, je vous ai mis ce plan ici donc qui vous montre l'église. Et ici, vous voyez, c'est marqué « Maison d'école démolie ». La première maison d'école de Gassicourt, donc, se trouvait ici. Elle date je crois que c'est 1839. Donc, elle avait été installée ici. Et puis, je vous ai dit qu'à un moment donné, on l'avait détruite, ce qui avait obligé à construire un contrefort pour l'église. Et vous voyez où elle était, ici. Donc, c'est écrit « Nouvelle école et nouvelle mairie ». Mais là, on est en 1870. Donc, entre 1839 donc, et cette école-là, c'était quoi? C'était le prieuré, la salle, le rez-de-chaussée, la cuisine du doyen qui avait été transformée. C'était une sorte de bricolage, on va dire. La deuxième aussi, c'était une maison qui avait été rachetée à des cultivateurs et transformée. Et à la fin du 19e siècle, la commune de Gassicourt commence à se dire que, avec l'évolution de la population, il faudrait peut-être se doter d'un édifice à la fois scolaire et d'une mairie plus digne de ce nom, et peut-être aussi de se rapprocher de cette activité qui commence à se développer le long de la nationale. Enfin, là, c'est des habitations, et puis le long de la gare. Et donc, voilà ce plan qui date de 1892, oui, qui vous montre. Bon, le village, vous voyez, il n'a pas beaucoup bougé. En bas, c'est l'usine Bronstein, qui est schématiquement représentée. La route nationale, et puis donc le chemin de fer ici. Hein? Donc, vous voyez, là, on commence à voir apparaître des maisons quand même à la fin du 19e siècle. On va en voir quelques exemples. Mais je vous montre ce plan parce que la municipalité de Gassicourt veut y construire une mairie-école qui soit digne du village qui est en train de se développer. Alors, comme ce sont des gens prudents, ils font un plan en plusieurs étapes, on va dire. Et la première étape, c'est une école de filles. Et c'est l'architecte d'arrondissement Émile Duval qui en a fait le dessin. Et puis, donc, ensuite, d'autres architectes vont rajouter leurs pierres, donc Deschamps et Carreau. Alors, voilà à quoi ressemblait sur le côté cette école de Gassicourt. Et ensuite, en 1902, donc deuxième étape, on construit la mairie et une autre école, donc école de filles, école de garçons. Le plan était prêt dès 1892, mais on fait les choses progressivement. Et ces bâtiments-là ont été inaugurés, si je me souviens bien, en 1904. Et puis, voilà, la mairie était ici. Et de chaque côté se développaient deux édifices identiques, pour les filles et pour les garçons. Et puis, un peu plus tard, on a construit cette partie-là qui est toujours là. Donc, qui était encore un agrandissement de l'école. Donc, toujours dans le même esprit, même si ce n'est pas exactement la même chose, on respecte l'architecture. Alors, j'ai demandé à une de mes collègues de faire un plan parce que j'avais du mal à m'y retrouver. Donc, pour résumer, en 1892-93, on a construit cette partie-ci qui était l'école de filles. Ensuite, en 1902, on a construit la partie garçon ici et puis la mairie. Et puis, comme la population continuait d'augmenter, vous avez vu, on est arrivé jusqu'à 3000, donc il fallait encore continuer. Donc, en 1912, on a construit cette partie-ci, qui est toujours en... aujourd'hui, tout ceci a été bombardé, hein, et n'existe plus. En 1912, on a construit ça, et en 1922, enfin ça. Donc, vous voyez, c'est une municipalité qui, au fil du temps, finalement, a grandi sa mairie-école. Et donc, je reviens maintenant à cette carte postale-là. Ça a disparu, en fait, et c'est ce que j'ai eu du mal à comprendre. Ce qui reste, en fait, c'est la partie la plus récente qui est là. Le reste a été détruit, donc est reconstruit, et c'est Marabout, Raymond Marabout, qui était à l'époque architecte communal, qui a reconstruit cette aile. Voici le bas-relief qui l'orne. Donc, je vous disais, le long de la route nationale, des maisons se sont construites, et puis des maisons jumelles. Et c'est là que ça me paraît important de vous dire que, donc, rappelez-vous ce que je vous ai signalé, ce parcellaire étroit, finalement, il est plus favorable. Comment ça se passe quand on veut construire une maison? Bien, il faut acheter une parcelle. Si vous êtes un lotisseur, vous rachetez 10 ou 15 parcelles et vous arrivez facilement à remodeler l'ensemble. Mais si vous êtes un particulier, vous achetez une ou deux parcelles et puis vous coulez dans ces parcelles. Donc, ces maisons jumelles-là, par exemple, c'est une manière de donner l'illusion qu'on a construit une grande villa. En fait, ce sont deux maisons juxtaposées. Alors, je n'ai pas le plan de ces maisons-là, mais j'ai trouvé des revues d'architecture. À la fin du 19e siècle, on publie beaucoup de modèles de maisons, justement, pour permettre aux architectes peut-être ou aux entrepreneurs de s'en inspirer. Et donc voilà des maisons jumelles à Juvisy. Ce qui est très intéressant, c'est la distribution intérieure. Donc vous voyez, on est un peu dans le même cas. Bon, c'est pas exactement les mêmes, mais on a une porte, une fenêtre au rez-de-chaussée, deux fenêtres à l'étage. Ces maisons jumelles-là, donc vous voyez, qu'est-ce qu'on a? On a le corridor, le vestibule d'entrée. On a ce qu'on appelle la salle à manger ici, la cuisine. Et puis, donc ici, ils ont mis le plan. Et deux chambres à l'étage, donc c'est pas très grand, c'est-à-dire donc salle à manger, cuisine, deux chambres. Autre manière de tirer du parcellaire étroit, c'est ce que j'appellerais des fosses jumelles, hein, c'est-à-dire donc c'est deux maisons à coller. En fait, voilà la très belle entrée de style Art Nouveau qui lui permet d'entrer. Bon, celle de gauche a perdu sa porte Art Nouveau, mais celle de droite, elle est vraiment Art Nouveau. Et donc, c'est une fosse jumelle parce que ce sont deux maisons à coller, mais elles sont pas exactement symétriques. Et puis, une autre manière de construire de l'habitat populaire, c'est ce qu'on appelle des pavillons, donc, qui sont plus étalés, on va dire, que les maisons jumelles, mais néanmoins qui sont pas plus grands. Alors, c'est pareil, j'ai pas le plan de ces pavillons-là, mais j'en ai trouvé d'autres, encore que ce pavillon-là, il est un peu plus important que les pavillons que je vous ai montrés. C'est la même chose, vous voyez, vous rentrez et vous avez une salle à manger, la salle à manger, une chambre, et puis la cuisine ici, et vous montez à l'étage et vous avez une chambre. Donc en fait, ça revient au même, c'est-à-dire une pièce à vivre, on va dire, une cuisine et deux chambres. Mais simplement, c'est un peu plus développé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le matériau. À la fin du 19e siècle, on aime beaucoup la couleur. Tout à l'heure, les maisons jumelles que je vous ai montrées, elles étaient colorées en briques, notamment. On aime la brique, on aime la meulière. Mais la meulière, c'est une pierre qui coûte relativement cher à mettre en œuvre. Et là, ce qu'on a, c'est de la fausse meulière, c'est-à-dire un enduit qui imite la meulière. J'ai grossi pour que vous voyez bien. Donc, une salle à manger, une chambre. Et puis, il y a des WC, mais il n'y a pas de salle de bain. Hein, ça, c'est plus tard que cet équipement-là viendra. Là, on est vers 1910, comme vous pouvez le voir. Alors, autre manière de tirer parti de ce parcellaire étroit. Donc, tout à l'heure, vous aviez les maisons jumelles. Là, c'est des maisons en rang, des maisons en bande, en fait. Mais vous voyez, effectivement, la meulière est intéressante. C'est de la meulière rocaillée, comme on l'appelle, c'est-à-dire des moellons de meulière dans les joints desquels on a mis des petits éclats de meulière qui donnent une impression de roche, de rocaillage. Et au milieu, vous avez du calcaire en moellons irréguliers, ce qu'on appelle opus incertum. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la même chose. Hein. Vous voyez, il y a une porte, une fenêtre. Donc, c'est exactement le même type d'habitat qui se développe un petit peu. Alors, c'est pour vous montrer que là, on est boulevard Carnot, donc on n'est plus à Gassicourt. Mais c'est pour vous montrer que ce type d'habitat, il se développe en fait partout. Il n'y a plus de spécificité de Gassicourt. La spécificité de Gassicourt, c'était ces maisons rurales qu'on a vues dans le centre-bourg. Là, tout se développe de la même façon. Bon, voici d'autres. Là, on est rue Berthelot, donc des maisons en bande. Vous voyez, là, il y en a trois. Et puis, voici d'autres, rue de la Liberté, quatre maisons qui sont construites, donc toutes jointives les unes avec les autres, en fait, pour tenir compte de ce parcellaire étroit. Sur la route nationale, donc, les villas sont plus cossues, on va dire. Ce sont plus des pavillons ou des maisons jumelles, enfin, quoi qu'il en ait. Mais on voit aussi apparaître des villas, par exemple celle-ci, donc, qui est à l'abri d'un immeuble plus récent, ou bien celle-ci. Je n'ai pas de, quand je le sais, je vous le dis, mais j'ai pas trop de noms d'architectes, en fait. Malheureusement, à ce moment-là, il n'y avait pas de permis de construire, donc on n'a pas trop d'informations. Mais ce que je voudrais vous montrer, vous voyez, on est quand même dans une villa, là. On est dans une habitation plus bourgeoise. En voici un autre exemple, donc, où là, la façade a été en moellons irréguliers. Elle devait être enduite au départ. Elle a été décroutée, comme le prouve la brique et les faïences qui étaient là. Voici un autre exemple, donc, côté de pas très loin de la gare. En voici un autre exemple. Et alors, je sais qu'on n'est pas à Gassicourt, je voulais vous montrer cette maison-là, parce que cette maison-là, j'ai son plan. En fait, il se trouve que j'ai son plan. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'on a, dans les villas, on a une catégorie sociale plus importante. Et elle a été publiée à la fin du 19e siècle dans un traité d'architecture. Et voilà son plan, donc, qui vous montre, le rez-de-chaussée est en haut. Vous voyez, vous avez bien sûr une cuisine, mais vous avez aussi un salon, une salle à manger, enfin des pièces de réception plus importantes. Et puis vous avez quatre chambres à l'étage, et vous avez encore deux chambres pour les domestiques sous les combles, en bas à gauche, et en bas à droite, c'est le sous-sol, rez-de-chaussée enterré. Donc un standing au-dessus. Et c'est important donc que toutes ces villas qui sont le long de la route nationale finalement montent en digne plus grand. Alors on arrive à la troisième partie de mon développement qui est la fusion avec Mende. Pour que vous compreniez bien ce qui se passe, j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Mende, c'est une ville dévoreuse de territoire, on va dire. Et déjà, dès la fin de la Révolution, le début du 19e siècle, la ville de Mende lorgnait sur ses voisines et notamment elle lorgnait sur Limay. Elle aurait bien voulu annexer Limay, mais les Limayens n'ont pas voulu et donc elle n'a pas pu. Du coup, elle a lorgné sur Mende-la-Ville. Et donc, la première ceinture que vous apercevez ici, c'est la ville de Mende telle qu'elle était en 1850, on va dire. Et ça, c'est le territoire qui a été pris sur, négocié, hein, c'est pas une... pris sur Mende-la-Ville. C'est un territoire considérable, en fait, qui lui permettait d'arriver jusqu'au chemin de fer. Et donc, à partir de 1855, la ville de Mende a deux gares. Elle a la gare de Mendation et la gare Mende-Embranchement. Et puis, ça lui permet de se doter de tous les équipements dont une ville a besoin, c'est-à-dire une usine à gaz ici pour l'éclairage public, des abattoirs. Et il y avait encore autre chose dont elle s'était dotée. Oui, la laiterie, mais la laiterie, elle est sur Gassicourt. C'est essentiellement je pense qu'il y en a un autre, mais il va revenir. Donc, ces équipements sont importants. Alors, l'usine à gaz, aujourd'hui, on voit bien son emplacement. C'est ce parking qui se trouve au pied d'un grand mur, en fait, qui vient d'être restauré. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une usine à gaz? C'est un endroit où on brûle du charbon pour fabriquer du gaz, donc qu'on stocke dans des gazomètres. La ville aussi se dote, après l'éclairage au gaz, on passe à l'éclairage électrique. Et c'est la société Nord Lumière qui équipe la ville, et vous voyez de loin en loin, il y a des transformateurs électriques donc qui sont marqués de Nord Lumière. Alors, le développement sur Gassicourt, l'absorption de Gassicourt, on va dire, qui s'est faite, les habitants de Gassicourt n'ont pas été pris par surprise, en fait, puisque les élections municipales s'étaient faites sur ce thème, et donc c'est la municipalité qui l'avait emporté. C'était la municipalité qui prenait la fusion avec Mende. Il y a eu une enquête publique. J'ai mis là des petits textes qui disent « Les habitants de Mende, ils sont pas très chauds. » Enfin, l'enquête publique, donc, il y a eu très peu de réponses. Enfin, ça arrive souvent. Et donc, c'est la majorité silencieuse, finalement, qui l'a emporté. Et donc, les habitants de Mende disaient qu'on risquait de faire rentrer les communistes dans la bergerie. Parce que les habitants de Gassicourt, c'était des cheminots, notamment, et des ouvriers, mais surtout les cheminots qui étaient un peu remuants, on va dire. Et les habitants de Gassicourt, eux, disaient qu'ils allaient perdre leur autonomie, donc ils ont protesté. En tout cas, ça s'est fait. Donc, c'est Auguste Gouste, le maire, qui était lui-même un ancien cheminot, qui a été député longtemps, qui voulait mener une politique sociale très importante. Donc, on en a déjà parlé. Et en tout cas, la fusion a eu lieu. Et ça permet de nouveau à la ville de se doter d'établissements importants. Par exemple, la gendarmerie, donc construite en 1932 par l'architecte Deschamps. Et puis, donc, des écoles, et notamment, donc, groupe scolaire que voici, Ferdinand Buisson, école de filles. Donc, à ce moment-là, l'école que je vous ai montrée tout à l'heure, qui n'avait pas encore été bombardée, l'école, la mairie-école, est devenue entièrement école de garçons. Et l'école de filles, donc, a été construite ici. Et Auguste Gouste, dans son souci, donc, à la fois, et bien sûr Marabout, l'architecte Marabout, dont on a déjà parlé, Auguste Gouste, dans son souci de bien-être social et de modernité, a fait construire cette école dans laquelle il y avait un cinéma scolaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cinéma scolaire? Eh bien, on est quand même en 1932, là, hein, donc le cinéma, il n'est pas vieux, il a une trentaine d'années d'existence. C'est un lieu où on projetait des films à caractère pédagogique, en fait. Et donc, je reviens sur le plan que vous avez ici, je l'avais mis, parce que le cinéma scolaire, il était là. Vous voyez l'entrée sur laquelle c'est écrit « ciné scolaire », elle est ici. Et puis, donc, ce qui veut dire qu'on pouvait venir depuis l'extérieur. Ce n'était pas réservé uniquement aux scolaires. Et donc, j'en sais pas plus, en fait, mais je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant, ce cinéma scolaire. Il y avait une association, je sais, du cinéma scolaire. Et donc, ça permettait, en tout cas, c'était la modernité. Au moment de l'inauguration de cette école, le journal de l'époque parle bien de modernité. Il dit que c'est tout à fait moderne. Et d'ailleurs, l'école de filles Hélène Boucher, on lui a mis un cinéma scolaire et c'est écrit cinéma scolaire dans la salle souterraine où aujourd'hui il y a un gymnase. Ce cinéma scolaire, il est encore là. Et bon, il est rose. C'est devenu les toilettes, en fait. Mais quand on est allé faire des photos, on a retrouvé la cabine du projectionniste. Parce que le cinéma de cette époque, il était très dangereux. En fait, il y avait des risques de feu très forts. Et donc, il fallait que la cabine du projectionniste soit fermée avec un éclairage zénithal. Donc voilà, elle est encore là. Bon, vous excuserez la photo un peu particulière, mais c'est parce que c'est au milieu des toilettes. Donc on a essayé de tricher un petit peu. Je ne sais pas si... c'est un élève de Ferdinand Buisson, là, s'il a repéré que c'était une cabine de projectionniste dans les toilettes. L'installation d'équipements, évidemment, l'annexion de Gassicourt permettra plus tard, après la guerre, d'installer un lycée. On est en 1956, là, c'est Raymond Lopez et Raymond Gravereau qu'on avait déjà rencontrés lors de la reconstruction, qui ont dessiné le lycée. Et ce qui est très intéressant, donc le bâtiment du lycée, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'était un lycée avec un internat de garçons, internat de filles. Donc il y avait les deux bâtiments qui sont perpendiculaires étaient des internats. Et c'était un lycée qui avait dès l'origine des ateliers aussi, parce qu'il y avait un centre d'apprentissage. Les ateliers, ils sont là. Donc, et ça, c'était le centre d'apprentissage qui a été agrandi. Et ça, c'est le lycée Rostand, donc qui a été construit 10 ans plus tard. Les plans ont été dessinés par Raymond Lopez. Et puis, c'est son fils, Raymond Lopez est mort en 1966. C'est son fils, Rémi Lopez, qui a pris la suite. Et on voit bien, on a changé d'époque. Là, autant le lycée Saint-Exupéry s'étire, occupe un territoire très vaste avec des classes. Uniquement un bâtiment simple avec un grand couloir puis des classes juste sur un côté. Autant le lycée donc Rostand, 10 ans plus tard, lui, c'est un bâtiment double en fait, c'est-à-dire qu'il y a des classes des deux côtés. Le procédé constructif aussi, là on est à façade rideau alors que de l'autre côté on est dans un autre mode de construction. Alors donc Auguste Gouste, donc, qui est désormais maire de Mantes-Gassicourt. La condition, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était que la ville s'appelle Mantes-Gassicourt. Hein, elle est restée jusqu'en 1952-53. Il était très soucieux de bien-être social. Et donc, il a, avec son architecte Raymond Marabout, fait construire des cités-jardins. Alors, celle que vous voyez ici, c'est la cité-jardin qui se trouve au Martrais. Donc, elle n'est pas sur Gassicourt. Mais en fait, si vous regardez les maisons, on les retrouve exactement à Gassicourt. Alors voilà, là on est à Gassicourt, donc, et c'est une cité-jardin qui a été construite sur le même modèle Donc, on est bien dans le même type d'habitat et on n'est toujours pas dans un grand habitat très confortable avec salle de bain, etc. C'est toujours du petit habitat avec... Alors, souvent, la salle à manger s'appelle salon, mais finalement, ça reste la même chose. Voilà ces cités jardins donc qui fleurissent. Et on voit apparaître à ce moment-là aussi les immeubles, l'habitat collectif. Alors, par exemple, ici, donc, il s'agit de l'immeuble... Je vous le montre tout de suite, cet immeuble-ci que vous reconnaissez. On n'a pas encore basculé dans l'habitat complètement collectif. En fait, on hésite entre les deux. Donc, cet immeuble donc construit par Marabout pour des cheminots, HBM, mais pour des cheminots, il est construit en même temps qu'une cité-jardin, donc avec des pavillons qui se trouvent ici. Donc, on hésite entre les deux. On a l'habitat collectif et l'habitat individuel qui cohabitent. Voilà tel qu'il était à l'origine. Alors, il n'y a pas encore de salle de bain, mais en revanche, il y a des bains-douches. Les bains-douches étaient au rez-de-chaussée. Bon, aujourd'hui, ils ont disparu. Et voilà le plan des bains-douches. Donc, ils étaient quand même importants. C'est aux archives municipales qu'on a ce permis de construire-là. Vous voyez, il y avait un côté homme, un côté femme, avec le guichet ici, et puis donc les cabines de chaque côté. Et évidemment, pas de machine à laver. On est en 1932-34, mais des lavoirs collectifs qui sont toujours là, c'est extraordinaire. Donc, ce bâtiment-ci, il est dans la cour de l'immeuble d'Émile Zola, que je vous ai montré ici. Si on passe le porche, on arrive dans la cour, et dans la cour, on a ce bâtiment-ci. De chaque côté, il y a des remises, donc des caves, on va dire, et puis il y a ce bâtiment-ci, au rez-de-chaussée duquel, donc, il y a des lavoirs en ciment, comme on faisait à l'époque, lavoirs collectifs, on va dire, et à l'étage, il y a des séchoirs, c'est-à-dire, on peut étendre le linge, ils sont toujours là. En tout cas, c'est des séchoirs qui sont avec claire-voie, mais individuels, c'est-à-dire c'est pas tout le monde met pas son linge en commun. C'est la modernité de 1934, c'est quand même intéressant. Je vous montre cette image donc de Gassicourt. Alors on peut la dater parce que ici on a la rotonde donc qui a été reconstruite après la guerre. On est autour de 1950 et vous voyez, on est avant la construction du lycée. Et avant, bien sûr, la construction du Val-Fouré. Et on a un peu l'impression, quand on regarde ça, on voit quand même encore que Gassicourt, c'est plus un village, mais il y a encore beaucoup d'espaces verts, on va dire, beaucoup d'espaces vides. Ce que confirme ce plan, donc qui date de la reconstruction, on est juste en 1945, ce que vous voyez là, c'est les zones à reconstruire. Donc, on voit bien sûr le fameux aérodrome qui va être racheté par la ville de Mantes et qui deviendra le Val-Fouré. Mais on voit aussi quand même encore, j'ai un peu zoomé, qu'il y a beaucoup de parcelles vides, en fait. Donc, la ville se développe petit à petit, on va dire, et surtout après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, donc bien sûr, c'est le triomphe de l'habitat collectif. On va en voir plusieurs exemples. Il y a néanmoins encore un goût pour l'habitat individuel, et notamment ce type d'habitat individuel qui s'appelle les logements des castors. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le mouvement des castors. Ça, c'est à Mantes, donc vous voyez bien où c'est. Et ça, c'est à Conflans-Sainte-Honorine. C'est exactement la même. En fait, c'est ce qu'on appelle des castors du rail, du plus loin rail. C'est-à-dire que c'était des gens, des cheminots, qui se sont... Mais les castors peuvent aussi être autres que cheminots. Mais là, en l'occurrence, on reconnaît bien. Donc, le chemin de fer fournissait le plan. En fait, c'est pour ça qu'ils sont toujours sur le même plan. Et puis, ils avaient la gratuité pour le transport des matériaux. Et donc, ils se mettaient en groupe pour construire en commun. Alors, je n'ai pas cette histoire-là, mais je la trouve très belle. J'ai cette histoire-là pour Conflans-Sainte-Honorine. Il se trouve que la maison que je vous ai montrée à Conflans était habitée par un photographe, fils de Castor, on va dire, et qui a donc fait des photos. Et donc, c'est le groupe de castors. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 castors, donc, au moment où ils se mettent ensemble pour construire leur logis. Oui, il y a une femme. Alors, elle a été aidée, après, je vous rassure. Voilà, c'est une construction un peu préfabriquée quand même. Assez simple. Il n'y a pas d'étage parce que c'est plus facile de construire quand on n'est pas entrepreneur. C'est plus facile. Enfin, je dis ça, mais je serais bien incapable de le faire. Mais bon, en tout cas, c'est plus facile de faire ce type de construction. Chose très intéressante, ce fils de Castor m'a prêté le livre de raison. Père était chef de chantier et donc il consignait semaine après semaine le travail que chacun avait fait parce qu'évidemment il fallait que tout le monde travaille de la même façon. pas résister au plaisir de vous montrer ça parce que je trouve que c'est vraiment tout à fait passionnant. Bon, mais quand même, l'habitat de castor, c'est minoritaire. Ce qui est se développe de plus en plus après la guerre, c'est l'habitat collectif. Donc ces immeubles aussi le long de la route nationale dont j'ai déjà parlé, donc du à Raymond Lopez. La crise du logement donne lieu à beaucoup de tentatives pour la résoudre. Là, c'est Candilis, l'architecte Candilis, donc qui a construit ces immeubles. Il a gagné en fait une sorte de concours qui s'appelait le concours Million, qui était un concours qui consistait à construire un appartement à Million. C'était une construction rapide. Ces immeubles, c'est la Croix Ferrée en fait, les immeubles, enfin le plan d'origine, et ils ont été relookés, on va dire, pour pas dire autre chose, récemment. Vous voyez bien, cet agrandissement, de cette annexion de Cicourt par Mantes lui a permis de se doter d'équipements publics, lui a permis donc de développer un habitat individuel, un habitat collectif, et on arrive à cette carte IGN qui vous montre donc l'aérodrome de Mantes, que la ville de Mantes a acheté en 1952 avec le projet de d'aménager une zone. C'est Raymond Lopez qui dessine ce plan. On ne parle pas encore de ZUP, de zone à urbaniser en priorité, mais ni de grand ensemble. On veut créer une ville nouvelle, c'est la modernité absolue. Alors pour ce nom du Val-Fouré, j'ai mis cette photo-là pour que vous voyez bien, c'est pas une invention, donc c'est un toponyme du cadastre napoléonien utilisait ce mot de Val-Fouré. Donc le Val-Fouré, le voici. Et je terminerai la conférence sur cette photographie qui montre la modernité absolue du Val-Fouré avec trois petits points de suspension, parce que le Val-Fouré, c'est le sujet de la prochaine conférence où j'espère vous retrouver, mais je ne serai pas toute seule. Merci. À